Laissons le hockey de côté et revenons sur cette planète box qui a été vraiment remplie d'action dans cette année 2018. Jacques Thériault avec nous en studio. Salut Jacques.
Bonsoir Jérémy.
Comment vas-tu?
Ça va très bien.
Je te souhaite un excellent temps des fêtes, joyeux temps des fêtes avec la famille, les amis. Plus de cigares, malheureusement, c'est terminé, ça, le cigare.
Ben, c'est-à-dire, tu peux pas fumer nulle part. Fait que j'ai comme... non, mais c'est vrai, tu peux pas fumer le cigare nulle part. Ça fait que j'ai laissé ça de côté. Je fume quand je suis en vacances, sur le bord de la mer. C'est à peu près la seule place où je peux fumer le cigare, ça me fait écœurer. Et c'est ça. Mais cette année, à Noël, c'était le fun parce que moi, j'ai une nièce puis un neveu qui ont eu des bébés l'an passé. Fait qu'à Noël, l'an passé, c'était des poupons. Et cette année, c'était deux petits hommes qui se promenaient partout dans la maison chez ma sœur. Fait que c'était
ça met de la vie.
Ah,
hein?
C'est extraordinaire.
Écoute, il y a eu quatre événements extrêmement majeurs ici sur la boxe et je veux débuter avec le drame de celui d'Adonis Stevenson. On sait que le 1er décembre, Adonis, suite à cette défaite face à Alexander Govzdik qui a été admis à l'hôpital. Là, les nouvelles semblent plus encourageantes tout récemment. Jacques, ça, c'était quelque chose qui a marqué l'année 2018.
En fait, j'ai dégagé pour moi, c'est ma vision des choses à moi. J'ai dégagé quatre grands événements cette année. Le drame de Stevenson, le cas Lemieux, le décès de Patrice Lheureux. Et t'en as parlé avec Ray tantôt, je m'étendrai pas trop là-dessus, mais quand même, pour moi, c'est important. Le retrait d'HBO et l'arrivée de DAZN. Le drame de Stevenson, évidemment, on s'en rappelle, le 1er décembre, fin du combat. Dans un combat qui était partagé, parce que selon les cartes des juges, deux juges le mettaient en avance. Une série de coups extrêmement précis et violents, dont le dernier, qui a probablement causé le plus de dommages, a permis cette victoire-là de l'Ukrainien Gvozdik. Et là, Stevenson se sent pas bien, quitte vers le vestiaire, est étourdi, se sent pas bien. Et finalement, on doit le transporter à l'hôpital. Et là, les médecins ont décidé de le mettre dans un coma artificiel. Il est revenu à lui, il est sorti du coma depuis quelques jours, commence à donner des signes de réaction. On peut affirmer que sa carrière est terminée. Mm-hmm. De toute façon, il avait 41 ans. Et ça a évidemment relancé tout le débat sur la pertinence de la boxe, d'autant qu'il y a David Whittam aussi qui est décédé cette année. Il s'était battu, il était dans le coma depuis mars 2017. 10 mois après, il est décédé. Ça a relancé le débat sur la boxe. Et moi, ce qui m'a particulièrement dégoûté, et tu sais comment j'aime pas Adonis Stevenson, l'individu et le boxeur. Mais là, on est ailleurs, là. Là, on parle d'un gars qui se bat pour sa vie. Il y a personne qui mérite ça. Mm-hmm. Et le déchaînement ordurier, dégoûtant qu'il y a eu sur les forums de discussion, sur les commentaires dans les médias et sur les réseaux sociaux, c'est à désespérer de l'être humain. Tant de haine et de... C'est pas un ange, Stevenson. J'étais un des plus critiques à son endroit. Le combat, j'étais content qu'il perde. Mais là, on n'est plus là, là. Mm-hmm. On n'est plus là, là. On est dans l'histoire d'un gars qui a des enfants, qui a une famille, un père, une mère, qui sont inquiets et qui se bat pour sa vie et qui sera peut-être plus jamais le même individu. Mm-hmm. Alors ça, moi, ça m'a profondément troublé le déferlement. Il y a eu un déferlement aussi de sympathie, mais de haine. Tu sais, c'est tellement facile en arrière de ton ordinateur, dans ton sous-sol, d'écrire des horreurs. Ça prend tellement pas de courage pour faire ça m'a dégoûté profondément.
T'as parlé que ça a lancé le débat sur la boxe. Je veux qu'on prenne quelques instants pour revenir sur le travail de l'officiel. Plusieurs ont regardé du côté de l'officiel en disant que ce dernier a peut-être permis un coup de poing de trop. Comment t'évalues son travail?
Moi, je trouve qu'il a fait, il a fait ce qu'il pouvait faire. Puis Michael Griffin, c'est un des meilleurs arbitres au monde. Au moment où le dernier coup part, il s'amène pour arrêter. Mais il n'y a pas le temps de l'arrêter le combat à ce moment-là. Et après le dernier coup, il arrête le combat. Et Michael Griffin, je l'ai rencontré, il était à New York, il arbitrait, il a perdu 10-15 livres depuis le combat. Il dort mal, il se sent responsable. Puis on lui a dit, j'étais avec Jean Tremblay, avec Mathieu Boulet du Journal de Montréal, on a dit, gars, Michael, t'es un des meilleurs arbitres au monde. Il n'y a rien que tu pouvais faire de plus que ce que t'as fait dans le ring. On peut pas blâmer Michael Griffin. Qu'il y ait un débat sur la boxe, moi, je veux bien, mais encore faut-il qu'on parle des vraies choses. Puis évidemment, il y a eu des réactions hystériques après le combat, l'abolition de la boxe, puis c'était effrayant, c'était un sport de barbare, puis ça a plus de place, puis on peut-tu respirer par le nez, puis parler des choses intelligemment, étape par étape? Moi, peut-être qu'on peut ouvrir le débat. Est-ce qu'on devrait maintenant limiter les combats à 10 rounds? Peut-être, je le sais pas. Peut-être, il y aura toujours des gens qui seront pour l'abolition de la boxe. Il y a des neurologues qui sont pour l'abolition de la boxe. Mais si tu regardes d'autres sports, Michael Schumacher, là, il s'est pas ramassé dans le coma parce qu'il a boxé. Il s'est ramassé dans le coma parce que en ski, il est entré.
Il s'est cogné à la tête.
Puis mon point, puis j'en ai parlé avec Yves Boisvert. Moi, je suis pas sûr qu'il y a plus de boxeurs punchés après 50 ans que d'anciens joueurs de la NFL.
Quelque part, là, de vouloir aujourd'hui en 2018, on veut tout que tout soit plus blanc que blanc.
Ah non, mais c'est
on
ça.
On veut
là.
Aseptiser tout. Puis je dis pas que c'est bien ou c'est mal le débat sur la boxe. La seule chose que je dis, c'est
que. Il est nécessaire, ce débat-là.
Sinon, on va commencer à dire, bon, ben, chaque sport extrême qui est fait, qui est pratiqué, le bungee, tu sais, en quelque part, il faut regarder.
Ça, c'est encore du bungee.
Non, mais il faut regarder s'il y a des athlètes qui sont prêts et qui connaissent les conséquences du sport et qui sont prêts à le faire. S'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça, s'il y a un marché pour ça, on est obligé de respecter le choix des individus.
Et dans la plupart des endroits...
Parce qu'on a la maladie de la bonne conscience.
Oui, c'est ça, non, oui, exactement.
Et ça m'agace, moi.
Puis les commissions athlétiques, maintenant, font de plus en plus mon travail. À Montréal, on a un commissaire fort, ben, c'est pas, il porte pas le titre de commissaire, responsable du sport de combat, Michel Amelin. Tu sais, les boxeurs doivent arriver avec des dossiers médicaux, il y a des examens qui sont obligatoires, peut-être qu'on devrait obliger partout sur la planète le scan, mais c'est parce que ça coûte des sous, c'est le boxeur qui paye pour ces affaires-là. Mais en même temps, ça devrait être obligatoire quand même. Ça devrait faire peut-être que le promoteur devrait en assumer les coûts, je le sais pas. Mais il y a certainement des choses. Puis à Montréal, on permet pas de, comme j'ai déjà vu, moi, des programmes de boxe, tu as des gars à aucune victoire, 14 défaites, dont 13 par KO. À Montréal, Michel Amelin ne laissera pas passer ça, là. Tu comprends? Et c'est bien comme ça. Puis, ben, c'est sûr que c'est un sport dangereux, c'est un sport brutal, mais en même temps, puis c'est encore là ce que je disais à Boisvert. Combien de fois on a vu au cours des dernières années, dans des matchs de hockey, des gars partir donner un swing puis pincer le gars sur la tête, soit avec son épaule ou son hockey, et avoir deux matchs de suspension et il y a des séquelles. Tu sais, Sidney Crosby, s'il y a une autre commotion cérébrale, moi je pense que la carrière est finie, là.
Ouais, mais moi je trouve qu'on. Puis on va passer à.
Mais
l'autre
je veux pas faire un débat sur le hockey.
Non, mais je veux continuer. Je trouve qu'on fait l'erreur en essayant de comparer chaque sport avec l'autre. Je pense qu'il faut juste respecter le choix d'autrui. Au lieu d'avoir bonne conscience sociale sur les réseaux sociaux, en passant, c'est sur les réseaux sociaux que tout le monde joue la bonne conscience sociale. Mais au lieu de jouer la bonne conscience sociale, respecter le choix des individus. Est-ce que eux font des bons choix, eh bien, c'est à eux de décider si le choix est bon, ou non.
Oui.
Maintenant, un qui n'a pas fait nécessairement peut-être les bons choix, c'est le 15 décembre dernier, David Lemieux, qui malheureusement s'est retrouvé à l'hôpital. Parle-moi du dossier, David Lemieux.
Ben, déshydratation sévère. Paraît-il que ça a pris 3 solutés pour le réhydrater. Selon ce qu'on a entendu après, c'est que ses reins auraient pu être touchés. Le médecin à Montréal a dit « Vous avez pris la bonne décision » parce que il aurait pu se retrouver en dialyse tellement il était déshydraté après les prises de sang puis tout ça. Ça fait 3 fois que David Lemieux, ça lui arrive. Ça fait 2 fois que ses combats sont annulés. Et les 2 fois, il fait affaire avec des gens qui, à mon avis, n'ont pas la compétence pour gérer la nutrition. Parce qu'il y a une chose entre perdre du poids et perdre du poids en se nourrissant avec tous les éléments nécessaires pour un athlète. C'est une Formule 1, un boxeur. Alors, c'est une chose, perdre du poids, mais c'en est une autre de perdre avec le maximum de précautions, de mesures pour s'assurer que le boxeur, dans sa perte de poids, il arrivera pas à un moment où il sera obligé de se déshydrater complètement pour perdre son poids. Et ça fait 2 fois que David Lemieux se retrouve avec des gens. Moi, quand j'entends le mot naturopathe et que je regarde la fiche de l'individu qui se présente comme un spécialiste de la nutrition, il y a rien de scientifique dans sa formation. Et c'est la même chose avec Gaudreau il y a 2 ans. Ces gens-là n'ont pas de formation scientifique. Mmh. Ces gens-là ne peuvent pas se présenter comme des experts de la nutrition sportive, c'est pas vrai.
Maintenant, tu es bien branché dans le milieu de la boxe. Je veux savoir, est-ce que selon toi, ce que tu as entendu, ce que tu connais, est-ce que David Lemieux a été sérieux dans sa préparation pour le 15
décembre? Oui, moi je pense
que la dernière fois, on le sait que c'est ça qui a fait un peu problème.
Mais cette fois-là,
aussi.
Mais il avait été sérieux à Vegas et ça a fonctionné. Il l'a été, sauf que si le protocole, si la méthode et peut mettre en péril ta santé. Si tu la suis, tu peux arriver avec un résultat comme il a eu cette fois-là. Alors là, c'est drôle parce qu'on questionne le physique de David Lemieux. Moi, je pense qu'il faut questionner la méthode. Il faut questionner l'approche pas tellement scientifique, à mon avis, avec des individus qui ne sont pas des spécialistes de la nutrition sportive. Je le répète, puis j'arrêterai pas de le répéter, puis poursuivez-moi si vous voulez, je vous attends. Vous avez pas de formation scientifique.
C'est peut-être le temps que Camille et Stéphane mettent son pied à terre et disent, on va engager des vrais professionnels.
Des vrais spécialistes de la nutrition sportive.
Jacques, le temps file rapidement. Je veux te laisser les quelques instants de cette première portion d'entretien pour que tu me parles de Patrice Lemieux qui est décédé à l'âge de 45.
Celui que j'appelais mon tout petit quand il était quand j'étais chez Interbox, Patrice Lheureux, un gentil géant, un gars au cœur d'or, Granit Lheureux, qui est décédé à 46 ans. Il était au Gala de boxe à Québec deux jours avant. Malheureusement, je l'ai manqué, mais je l'avais vu à Shawinigan. Il revenait dans le monde de la boxe, il recommençait à jaser avec le monde parce qu'il avait trouvé ça dur, sa retraite, de se couper du monde de la boxe. Ben, il est mort d'une crise cardiaque ou quelque chose comme ça. Et moi, ça m'a fait beaucoup de peine parce que je l'aimais beaucoup. J'ai jamais entendu personne dire du mal de Patrice Lheureux, qui était un gars. Tu sais qu'à un moment donné, c'est David Cadieu qui a rappelé ça. Il avait donné sa bourse totale de 5 000 $ à une fondation pour les maladies de cœur pour enfants parce que lui, il avait comme pas adopté, mais il était devenu le protecteur d'un petit gars qui avait eu une greffe du cœur, qui m'avait présenté d'ailleurs lors d'un entraînement public. Et ce petit gars-là, quand il regardait le géant, là, il y avait des étoiles dans les yeux et le regard plein de tendresse de Patrice vers cet enfant-là. Moi, c'est le souvenir que je garde de Patrice Lheureux.
Jacques Thériault, ton coup de cœur de l'année 2018 pour la planète boxe au Québec.
Eleider Alvarez, qui devient champion du monde, il a enfin obtenu justice le 4 août à Atlantic City. Il passe le KO à Sergei Kovalev, pas n'importe qui. Probablement, à ce moment-là, le meilleur mi-lourd de la division, étant donné qu'André Ward avait pris sa retraite. Un combat intense, de très haut niveau, mais au septième round, Eleider a envoyé trois fois Kovalev au tapis. D'abord une droite, ensuite une gauche, et la droite fatale. L'arbitre a arrêté le combat. Kovalev n'était plus là, donc il est champion du monde WBO des mi-lourds. Enfin, et les deux hommes vont remettre ça le 2 février à Frisco, au Texas.
Je veux que tu me parles d'Arthur Beterbiev maintenant.
Ben, jusqu'à la tragique défaite d'Adonis Stevenson, Québec avait le monopole des titres chez les Milos, où Stevenson et Alvarez, il y avait aussi Arthur Beterbiev. Lui, il avait conquis le titre à la fin de 2017. Il a fait une seule défense en 2018, 11 mois plus tard. A facilement battu le Britannique Callum Johnson, jusque-là invaincu à 17 combats. Toutefois, pour la première fois, il est allé au tapis, mais il a gagné sur un crochet de gauche. Il a envoyé son tapis. C'est-à-dire qu'il a été envoyé au tapis sur un crochet de gauche au deuxième round. Il a gagné au quatrième round par KO. Beterbiev, pour l'instant, je ne sais pas trop quand il va se battre, mais il a signé un gros contrat avec Top Rank, donc ESPN également. Jim, maintenant, n'est plus que le copromoteur de Beterbiev parce qu'on sait qu'il y a eu des. Sont allés en cours les uns contre les autres. Alors, c'est probablement une bonne manière d'arranger les affaires.
Maintenant, parlons de la rayonnante Marie-Ève Dicker, qui est maintenant championne du monde.
Ouais, ça, c'est formidable. C'est passé un peu sous le radar en raison de la tragédie d'Adonis Stevenson, parce qu'elle a remporté ce titre-là, IBF, des super moyens, en battant l'Uruguayenne Chris Lamus, qui était déjà la championne, qui était la championne en titre. Elle a 14 victoires. Invaincu en autant de combats, puis moi je veux féliciter, je le critique souvent Yvon, mais là je veux le féliciter Yvon parce que il a cru en Marie-Ève, il lui a donné même des finales dans ses programmes, dans ses galas de boxe. Alors c'est formidable, puis on a hâte de voir la suite pour Marie-Ève Dicker.
Jean-Pascal, ça a pas été facile contre Bivol?
Non, ça a pas été facile après cette pantalonnade contre Steve Bossé, qui c'était pas sérieux cette affaire-là. Il a remporté au 8e round, mais là il a été surclassé par Bivol. Il a été battu deux fois par Kovalev précédemment, par Eleider Alvarez. Jean ne peut plus rivaliser avec les grosses pointures de la division. Il a le cœur, il a le courage, il a peur de personne, mais il n'a plus la vitesse pour lancer des coups et la vitesse de réaction pour battre ces gars-là, puis il n'a plus la puissance non plus.
Qu'est-ce que tu penses de Simon King?
Oh, lui, il est tombé de haut parce que Simon King était un peu sur un nuage. Il se voyait déjà dans la même catégorie que les Tyson Fury, Deontay Wilder, Anthony Joshua. Et là, ça a été brutal, un chaos brutal, le 6 octobre au centre Vidéotron, contre Daniel Carman, qui n'est pas un gars du calibre de ces gars-là. Il est invaincu à ce moment-là. 15 victoires en 15 combats. Donc 14 par KO. Donc son élan vers les classements mondiaux a été stoppé brutalement. Il n'a pas reboxé encore. On ne sait pas quand il va boxer. Semble-t-il qu'il l'a pris très dur.
Parle-moi de Stephen Butler maintenant.
Stephen Butler, je dirais un mot pour Stephen Butler cette année, maturité. Il a acquis beaucoup de maturité. Il a bien travaillé dans ses combats. Il a gagné tous ses combats. Il a fait 5 combats cette année. Il a tous remporté par KO, TKO. Il a seulement 23 ans, mais là, on voit que le métier rentre. C'est un boxeur maintenant avec de l'expérience. On lui a présenté toutes sortes d'adversaires qui lui présentaient des énigmes. Il est bien encadré par Rénal Boisvert, Jean-François Bergeron. Et moi, je suis convaincu que le meilleur est encore à venir pour Bang Bang Butler. Il est actuellement classé 3e à la WBO, dont le champion est Demetrius Andrade. C'est encore une grosse pointure, ça.
Sortons du ring et parlons de cette rupture entre Stéphane Larouche et Camille Estéphane.
Oui, ça a un peu étonné tout le monde à l'extérieur de la boxe parce que Stéphane Larouche est quand même un entraîneur de champion du monde. Il a amené Dorin, Lucas et Bouté en championnat du monde. Il était pas loin du requin Diaconou lorsqu'il est devenu champion du monde. Même si c'était Pierre Bouchard l'entraîneur, mais Larouche était là. Donc, un différent, semble-t-il, irréconciliable entre les deux hommes, ce qui fait que, par exemple, Kouzaïnov, Yokumbayev, Sabirov, Éric Bazinian sont maintenant entraînés par d'autres entraîneurs, puis il semble que ça a été difficile pour certains d'entre eux, Bazinian entre autres, et Yokumbayev, qui est maintenant entraîné par un Kazakh comme lui. Et c'est une décision qui, sur le plan d'affaires, s'expliquait peut-être, se justifiait peut-être, mais sur le plan de la boxe, tu sais, la boxe, c'est un sport individuel, hein? Mm-hmm. T'as beau faire partie d'une écurie de boxeurs, ton entraîneur, c'est ce que t'as de plus proche dans ta préparation. Alors, souhaitons que les choses se passeront bien pour la suite des choses, parce que moi, j'aime beaucoup Yokumbayev, c'est mon préféré dans tous ceux qui montent, là. C'est un petit Golovkin, c'est un petit guerrier, il va au tapis, il se relève, il est enragé, il a un beau style, c'est l'école de l'Europe de l'Est, ça serait de valeur que ça arrête son élan.
En terminant, parlons du roi des rois, Canelo Alvarez, et surtout, il est maintenant millionnaire,
oui,
un contrat...
c'est le cas de le dire!
Incroyable,
oui,
avec
DAZN. C'est le roi, c'est maintenant la figure de la boxe, Canelo, c'est peut-être pas le meilleur, toute catégorie de poids confondue, mais c'est lui la figure de la boxe. Il a signé un contrat de 5 ans, 11 combats, 365 millions de dollars avec DAZN. Golden Boy Promotion, son promoteur, les autres, ils sont morts de rire, sont allés à la banque en riant, c'est le cas de le dire. Et c'est la transition est maintenant faite entre l'ère HBO. Et là, j'ai hâte de voir ce qui va se passer du côté de Showtime. Il reste dans la boxe. Il y a d'autres réseaux de télévision. ESPN, c'est pas terminé pour Professional Boxing Championship avec le gérant des boxeurs qui a mis pratiquement la boxe à genoux, mais qui a investi son argent. Ça continue, cette affaire-là. J'ai vu un combat la semaine dernière. Pas mal, là, sur le réseau, sur Fox Sports. Mais l'avenir de la boxe, comme le disait très bien, si bien Ray, c'est exactement ça. C'est le streaming, c'est le modèle Netflix, parce que pas juste la boxe, évidemment, DAZN, c'est la NFL, c'est le soccer, c'est le plus de sport qu'on... Et ça, tu peux l'avoir en direct, et ensuite, tu peux le regarder quand tu veux. C'est l'avenir de la boxe, c'est là.
Jacques, encore une fois, t'as fait un travail exceptionnel. Toujours passionné par la boxe?
Toujours, la boxe, toujours. Toujours.
Jacques Thériault, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en studio. Gros merci à Geoffroy Morin à la mise en onde. Restez là au retour. C'est Derek Aucoin qui s'amène pour Bonsoir les sportifs. En mon nom personnel et au nom de toute l'équipe, bonne soirée à notre antenne.